Yannick Ogor-Egunhun.
Bonjour.
Hor din zuek ingututu hau aldizkaian elkitzia entako, konferentzia batetan parte hartzen behituzu eta politika gehialdi bat antolatuk behita hoi uhaitza terpetsian, ostiale huntan, eta zu hor din lehenik laboizia eta libu bat ebai elkizu nin Le Paysan Impossible izenekua, eta hor din gehialdi bat antolatu duzie labontxan mundien industrializazioan inguian eta horren aipatzeko. Ordin, lehenik, heltu bada hasteko presentatzen ahalzia.
Oui, moi je, en fait aujourd'hui je suis paysan, enfin maraîcher et éleveur, petit troupeau de brebis pour la viande et un petit peu d'engraissement de cochons en plein air. Je fais ça en Bretagne, en Morbihan plus précisément. Là, ça fait aujourd'hui une vingtaine d'années que je suis agriculteur et auparavant, j'avais eu l'occasion de mieux connaître l'histoire agricole, non pas tant par ma famille que par le fait que j'ai été salarié au sein de la Confédération paysanne en Bretagne. Donc c'est essentiellement là, dans un premier temps, que j'ai pris la mesure en fait de comment les politiques agricoles ont fabriqué le paysage agricole depuis une centaine d'années. Notamment comment l'administration a été le chef d'orchestre de ce que j'appelle l'industrialisation, c'est-à-dire l'éradication de ce qu'on appelait la civilisation paysanne et du coup comment cette administration a rendu quasiment impossible année après année le fait d'être paysan, comme je dirais, c'est-à-dire d'essayer de travailler à une certaine recherche d'autonomie et de liberté dans une ferme à taille humaine, quoi.
Justoki, esplikatzen duzu zue librian amin bat mindu hoi, laboiaen figuraen kambiatze hoi edo mistifikazio hoi. Amin bat esplikatzen ahalde ikusia, zer zen zue pentsatzeko manea horren inguian?
Ouais, c'est ce que je nomme un peu le mythe paysan, c'est-à-dire que, comme tout mythe, en fait, il vient rappeler une histoire qui est finie, qui est passée. Mais en le réactivant, comme le fait aujourd'hui la profession agricole, qu'elle soit de droite ou de gauche, en fait, ça fabrique une espèce d'illusion, en fait, de subsistance de cette paysannerie, là où quand on regarde de près, en fait, on se rend compte qu'il n'y a plus que des chefs d'entreprise, des chefs d'exploitation, et que toutes les fermes, même celles qui tentent d'être moins pris dans le système industriel, on va dire, sont quand même organisés par des réalités économiques qui n'ont plus rien à voir en fait avec l'histoire paysanne, et que en fait ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, c'est qu'il y a toutes les raisons du monde de se reconnaître dans un héritage paysan, mais que le carcan économique et administratif en fait rend quasiment impossible, même si le titre est un peu provocateur et que j'ai pas envie de me résigner, le titre de mon livre, mais voilà, c'est aujourd'hui une réalité. On est incarcéré, en fait, qu'on le veuille ou non, dans un système industriel, on en est dépendant par tellement d'aspects que l'autonomie et la liberté qu'on pouvait voir chez un paysan du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, aujourd'hui, c'est surtout une recherche plus qu'un acquis, quoi.
Eta justoki egun ezagutzen dugun laboantza egiteko manea edo mindia, esplikatzen duzu hiutan hogei hamarkadan kambiatu zela, eta justoki gestio administratibo hoi sartu zela azkarki laboantza mindian, eta esplikatzen duzu ebai sindikatak ebai errol bat ukendiela hortan, ze gana izunin hortaik?
Oui, parce que enfin, quand on regarde la vitesse avec laquelle l'agriculture a complètement changé à partir des années 60, on est obligé de se poser la question, mais comment le monde paysan a pu accepter en fait une telle révolution civilisationnelle, on peut dire. Et du coup, tout de suite apparaît le rôle central en fait du syndicalisme, censé représenter la majorité ou la totalité même du monde agricole, et ce syndicalisme en fait s'est construit autour de leaders qui ont très vite en fait utilisé l'appareil syndical dans des dispositifs qu'on appelle de cogestion, c'est-à-dire que très tôt en fait l'administration pour faire accepter ces politiques d'industrialisation, a appelé à la table des négociations, enfin des discussions, les leaders syndicaux qui ont vu, en fait, parce que c'était les plus opportunistes, qui avaient attiré son épingle du jeu pour une élite, en fait, dans ces politiques agricoles, et du coup, ont, en même temps qu'ils acceptaient des mesures qu'ils savaient très bien qu'allaient éliminer une grande partie des paysans, ont fabriqué un discours d'acceptation, en fait, de ces mutations, en fabriquant le discours étant tourné autour de la nécessité de la modernisation pour sortir d'une misère ancestrale, mais en même temps qu'ils annonçaient militer pour satisfaire les besoins du plus grand nombre de paysans, ils savaient très bien que ce processus d'industrialisation, de concentration de la production, allait éliminer la grande majorité d'entre eux, et que ce système de cogestion a double logique, à la fois une élite qui se sert ses propres intérêts dans la négociation avec l'État et une élimination programmée du plus grand nombre, perdure encore aujourd'hui. En fait, c'est à la différence près, c'est qu'historiquement c'est la FNSEA qui était le seul interlocuteur de l'administration. Aujourd'hui, il y a autant la Confédération paysanne que la Coordination rurale qui ont été invités à la table des négociations. On pourrait penser, en fait, que la diversité du syndicalisme aujourd'hui invité à négocier les politiques agricoles freine quelque peu le processus d'industrialisation. Moi, ce que j'ai constaté en naviguant un peu dans les sphères de la gauche paysanne, notamment, c'est que, en fait, cette cogestion est la plupart du temps un jeu de dupes. Et que les agriculteurs se laissent mener en bateau, soit par intérêt, soit par cécité, en fait, et que on le voit. Moi, je l'ai vécu très précisément en Bretagne, autour des questions environnementales, où l'agriculture industrielle portée par la FNSEA était largement, à partir des années 90, accusée de détruire l'environnement breton. Et derrière, le syndicalisme Confédération paysanne a essayé de militer sur un plan écologiste pour empêcher, en fait, pour essayer de freiner, en fait, cette industrialisation et la concentration des élevages de cochons et de volailles notamment. Et le résultat de ça, c'est que les lois qui ont été votées depuis plus de 20 ans sur la question de la gestion de l'environnement et de l'aspect sanitaire. Le bilan, c'est que ça a été un jeu de dupes parce que ces normes sanitaires, ces normes environnementales ont provoqué une modernisation à marche forcée toujours plus importante, et que les seuls qui ont su faire face à ces nouveaux investissements et à cette nouvelle réglementation, c'est les gros industriels, en fait, et que tous les petits ont disparu depuis le milieu des années 90. Et que du coup, j'ai bien vu que le système de cogestion, même pris en main en partie par la gauche paysanne, ne changeait pas du tout les règles du jeu, quoi.
Eta justok, aipatuko duzien Ostialian, da mini bat industrializazio horrek beste pauso bat emaiten dila oai aspektu sanitario batekin, hoi eitarzunak bai beitia animalen tako, nula ikusten duzu hoi, edo ze nula analizatzen duzu teknologien txartze hoi, ebai industrializazioan edo laboien mundian.
Je vais mettre l'accent surtout sur un rouleau compresseur absolument terrifiant aujourd'hui, qui est l'aspect sanitaire, en fait, et bon, on le vit à l'échelle des humains aujourd'hui avec le Covid, mais ça fait des années que l'industrialisation, en fait, a démultiplié ce qu'on appelle les zoonoses, c'est-à-dire des pandémies potentielles partant des animaux d'élevage et ayant le risque un jour de se transmettre aux humains. Et que ces nouveaux pathogènes, enfin, ce qu'on appelle ces pathogènes émergents, qui sont partis principalement d'Asie du Sud-Est, dans des zones où on a des grandes concentrations d'élevage hors sol, poulets et volailles confondus, et aussi une concentration urbaine très très forte, en fait, on, Alors que c'est une évidence que c'est que ça soit la grippe aviaire, la grippe porcine, la peste porcine, le virus Nipah, le virus du SRAS, tous ces virus-là, donc il est évident aujourd'hui qu'elles ont été produits par l'élevage industriel, que sa propagation est largement liée au capitalisme agricole avec le marché import-export sur le marché mondial. Et malgré ce constat-là, en fait, on se rend compte que toutes les réponses qui sont apportées par les États ou les organisations internationales ne font que conforter, en fait, ces mégastructures, ces usines agricoles, en fait, et que derrière, en fait, et c'est clairement dit d'ailleurs au sein de l'Organisation internationale de l'élevage, que les responsables soi-disant de ces pandémies sont les élevages de plein air parce qu'ils sont en contact permanent potentiel avec des animaux sauvages, que ce soit les sangliers par exemple pour la peste porcine, que ce soit les oiseaux sauvages pour la grippe aviaire, et du coup ça serait les élevages de plein air qui seraient responsables de ces potentielles pandémies, et du coup il faut interdire en fait l'élevage de plein air. Donc c'est ce qui est advenu dans les années 2000 dans quasiment tous les pays d'Asie du Sud-Est, c'est-à-dire autant la Chine, Hong Kong, Singapour, l'Indonésie. Il n'y a plus de basse-cour vivrière, il n'y a plus d'élevage en plein air, tout est dans une usine hygiénisée encore plus fortement qu'un hôpital comme on les connaît aujourd'hui. Et voilà, la réglementation à la fois élimine. Et en plus, les subventions qui restent à la mise aux normes sont entièrement dédiées à ces grands groupes industriels. Et que pour moi, c'est aujourd'hui absolument essentiel de prendre la mesure de cette extermination programmée des derniers éleveurs qui pensaient pouvoir résister un peu à l'industrialisation. Et qu'en France, où la situation arrive plus tardivement qu'en Asie du Sud-Est, on est en train de vivre le même processus avec les pandémies de grippe aviaire à répétition depuis quelques années, avec la menace de la peste porcine à nos portes, arrivée en Belgique en 2017 et en Allemagne l'année dernière. Les mesures de biosécurité qui sont prises par l'État pour lutter contre ces virus, c'est systématiquement le confinement, l'interdiction en fait véritable du plein air, et que malheureusement la résistance n'arrive pas à s'organiser, à la fois parce qu'il y a de moins en moins de paysans en France à vivre sous forme d'éleveurs plein air, mais aussi parce que je pense qu'on prend pas la mesure en fait de la violence et de l'idéologie qui est en train de s'emparer de ces questions d'hygiène et de santé publique en fait, et qu'on le voit bien aussi avec le Covid, comment très peu d'opposition conséquente a su faire face aux politiques d'État, et en élevage on subit exactement la même impuissance. Et que c'est terrifiant, parce que je pense que à la vitesse où ça va, il faudra pas 10 ans pour qu'il n'y ait plus aucun élevage en plein air, ni de volailles, ni de porcs en France, parce que j'ai parlé de l'obligation de confinement des volailles pour la grippe aviaire, mais aujourd'hui en cochon, on est contraint de soit d'enfermer les cochons dans les bâtiments, soit de mettre en place des triples clôtures, qui représentent un tel surcoût pour n'importe quel éleveur de plein air qu'au fond, ça le condamne à arrêter ou à rentrer tous ces animaux en bâtiment, ce qui change complètement la vision de l'élevage que pouvait avoir un tel éleveur.
Ordin ostialin hortaz mintzatuko zide ami bat xako nagoki. Urentzeko nahi duzia azken hitz bat gehitu?
C'est surtout qu'aujourd'hui, je pense que ce qu'on a besoin, en fait, c'est de rien lâcher en fait par rapport à nos convictions, que c'est une évidence que nos modes d'élevage en plein air sur des petites fermes avec des diversités d'espèces et de variétés sont les véritables remparts en fait à la mise en péril généralisée par ces pandémies produites par le système industriel, et que ne pas lâcher nos convictions, c'est aussi refuser toute tout compromis avec l'État, et je pense qu'on a aujourd'hui rien à attendre en fait de ces politiques de biosécurité, et que je pense qu'il est plus que temps en fait de s'y opposer et de boycotter en fait et de faire en sorte que nos élevages soient des lieux de refus en fait de l'intrusion sous prétexte sanitaire de l'État dans nos choix de vie et d'élevage.
Moi, je suis Kerikan, Jordine Yannick Ogor.
Merci à vous.